C'est pas que des mots, Laurent. Parfois, on en vient aux mains. Ces mots, je les ai entendus dans le cadre de mon ministère. C'était pas ici, mais ça aurait pu. Une femme, en tout cas, venait me voir pour des difficultés de couple. Et si on faisait un sondage ici même pour savoir combien d'entre nous ont été victimes d'abus, les statistiques montrent que sur la seule question des abus sexuels, on verrait déjà se lever parmi nous, ici, dans l'Assemblée, 14 mains féminines et 4 mains masculines. Et ça, ce sont des statistiques qui se basent sur les déclarations, sur les plaintes, les mains courantes. Il faut ajouter à cela tous ceux qui ne disent rien. Il faut aussi ajouter les autres violences physiques, et puis les abus d'ordre psychologique, et puis les abus spirituels. Et avec un tel exercice, la question serait plutôt de se demander combien de mains vont rester dans les poches. On aurait tort de croire que l'Église est épargnée, tort de croire que nous, quand même, on vaut mieux que ça. La réalité brute nous amène à beaucoup d'humilité. Je l'ai déjà dit parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a profondément troublé, en vrai. Il a été montré, il y a une étude qui a montré que le fait de fréquenter une église évangélique est un facteur aggravant dans les cas de violence conjugale. La question des abus, c'est une question donc qui nous concerne, et la préoccupation fondamentale est la suivante. Comment protéger les victimes ? On va se poser la question, on ira lire dans l'évangile de Jacques au chapitre 4, mais je vais prier d'abord. Seigneur, oui Seigneur, nous voulons aborder cette question avec humilité. Nous voulons voir ce que tu as à nous dire, nous voulons apprendre, nous voulons nous laisser interpeller, en particulier si nous péchons dans ce domaine, parce que nous voulons être là pour les plus faibles. Nous voulons être là pas seulement en mots, mais également en action. Et nous voulons simplement entendre ce matin ce que ta parole a à nous dire à ce sujet. Amen. Alors, on va se poser la question de savoir comment protéger les victimes, mais avant, on a sans doute besoin de prendre conscience de la source du problème des abus. Et donc, l'apôtre Jacques, je vous le disais, va nous y aider au chapitre 4. Et dans la mesure où il s'adresse à des chrétiens, il devient assez limpide que la question nous concerne bel et bien. Mais avant, je vais régler le problème du micro qui est en train de glisser. Ça devrait aller. Jacques chapitre 4. Versets 1 à 3 pour démarrer. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous ? Elles viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir, alors vous vous lancez dans des querelles et des guerres. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Et donc, on a là, dans ce texte, la difficulté profonde. En vrai, on ne se lève pas le matin avec pour projet de faire souffrir l'humanité. Par contre, on se lève le matin avec des désirs égoïstes. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer ces désirs égoïstes dans la journée, parce que l'enjeu est effectivement là. Si ces désirs égoïstes deviennent le moteur de nos décisions, alors nous allons aborder les gens qui nous entourent, non comme des êtres dignes de considération, faits à l'image de Dieu, dignes pour eux-mêmes, pour le simple fait d'être des êtres humains, mais on va les considérer comme des outils, des objets, des moyens de satisfaire nos désirs égoïstes. Évidemment, dans le monde du travail, cette attitude-là est dévastatrice. Dans le couple, cette attitude est dévastatrice. Et dans l'Église, elle est également dévastatrice. Ici, Jacques parle de lutte, il parle de querelle, il ne parle pas d'abus, en fait. Et c'est vrai, il y a une différence entre lutte et querelle et abus. Il y a lutte et querelle quand le rapport de force est déséquilibré. Lutte et querelle quand le rapport de force est équilibré. Dans l'exemple que j'ai donné en introduction, ce n'était pas l'homme qui battait sa femme, ce n'était pas la femme qui battait son mari, c'était les deux qui se battaient. Alors, ce n'est pas foncièrement mieux, évidemment. En tout cas, en termes d'ambiance à la maison, on connaît plus serein. Mais ce qui caractérise l'abus, c'est lorsque le rapport de force est déséquilibré. Il y en a un qui impose ses désirs à l'autre. Les abus et les maltraitances interviennent quand nous sommes en situation de faiblesse et que nous manquons des ressources nécessaires pour nous protéger des désirs d'un autre. Et Dieu le sait, Dieu sait tout cela. Et c'est pour ça qu'il associe toujours sa justice à la protection des plus faibles. La Bible nous dit qu'il est le père des orphelins et le défenseur des veuves, psaume 68, 6. Elle nous dit qu'il délivre le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille, psaume 35, 10. Et il nous enseigne qu'agir de manière juste implique nécessairement d'être attentif à la situation des plus vulnérables. En Zacharie 7, versets 8 à 10, nous lisons ceci. « La parole du Seigneur fut adressée à Zacharie. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Rendez des jugements équitables. Conduisez-vous les uns envers les autres avec amour et bonté. N'opprimez ni les veuves, ni les orphelins, ni les étrangers, ni les pauvres. Ne préméditez aucun mal les uns à l'égard des autres. » Alors, pourquoi les veuves, les orphelins, les étrangers, les pauvres, est-ce qu'on peut opprimer les autres? Non, évidemment, mais ceux-là sont en situation de faiblesse. Ils n'ont pas les ressources suffisantes et nécessaires pour se protéger du désir de l'autre. Et donc, il est facile de les abuser, de les exploiter, de les utiliser. Ce qui veut dire que, nous concernant, la première chose que nous avons à faire, personnellement, c'est de remettre nos désirs en ordre. Jacques poursuit, c'est à nous qu'il s'adresse, et ça secoue un petit peu. Il dit, « Vous n'êtes que des infidèles à Dieu. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture déclare « Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous » Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande. Car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Ce texte nous donne une alternative, ou bien nous sommes amis du monde et nous fonctionnons selon les valeurs du monde, ou bien nous sommes amis de Dieu et nous fonctionnons selon les valeurs du royaume de Dieu. Soit nous traitons les personnes dans toute leur dignité de créatures faites à l'image de Dieu, soit nous utilisons les personnes comme des moyens pour arriver à nos fins. Et ce texte nous dit autre chose, il nous dit que, quelle que soit l'alternative que nous choisissons, la grâce de Dieu va nous atteindre, sous des formes plus ou moins agréables, mais elle va nous atteindre. Les humbles seront touchés par sa bienveillance, par la bienveillance de Dieu, et les orgueilleux, eux, seront touchés par son opposition. Et cette opposition de Dieu, eh bien, c'est une grâce aussi, parce que ce sera l'occasion pour eux, si toutefois ils la saisissent, de réorienter leurs désirs. Le problème, en ce qui nous concerne, finalement, c'est d'arriver à savoir quel type de grâce risque de nous tomber dessus. Autrement dit, est-ce que je suis concerné par la question de l'abus ? Et je trouve que c'est pas forcément facile de répondre à cette question parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'orgueilleux, c'est toujours l'autre. C'est pas moi, hein, c'est bien toujours l'autre. Pourquoi ? Parce que on est toujours le maître étalon de sa propre vertu, n'est-ce pas ? Et là encore, on pourrait se dire non, pas nous. Pas nous, parce que nous, notre maître étalon, ce à quoi on se compare, ce qui nous permet de s'auto-évaluer, c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai, c'est d'ailleurs un grand cadeau qui nous est fait que d'avoir ce vis-à-vis de la parole. Tout le monde ne l'a pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est vrai, mais c'est aussi, je dirais, la bonne réponse théologique, celle du chrétien qui connaît bien sa leçon, et c'est hélas aussi bien souvent la réponse de l'orgueilleux. Du pharisien, sûr de son bon droit, qui se tient droit dans la synagogue, fier de n'être pas comme ce publicain pécheur qui se tient au fond en se frappant la poitrine d'indignité, celui qui non seulement détient les Écritures, mais détient aussi la bonne interprétation des Écritures. « Femmes, soyez soumises à vos maris », dit-il doctement, en omettant la suite du verset qui dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». Alors, voici par exemple ce que propose la société qui nous entoure pour définir à quoi peut ressembler un abus. Je vous présente le violentomètre. Alors celui-là, il concerne les amitiés et il aide à se poser la question « Est-ce que je suis dans une situation d'abus ? Est-ce que j'ai moi-même un comportement abusif ?» Comme j'arrive absolument pas à lire sur la petite... Ah. Voilà, et donc, en vert, on voit des situations d'amitié saines. Tes copains rigolent avec toi, ils te réconfortent quand tu as de la peine, ils te font confiance, ils acceptent tes autres amis, ils respectent tes goûts et ton habillement. Et puis après, on arrive sur du jaune-orangé, où là, ça commence à pas sentir bon. Ils rabaissent tes opinions et tes projets, ils se moquent de toi sur ton physique ou sur ton habillement. Ils parlent de toi ou te critiquent sur les réseaux sociaux, ils t'isolent du reste de tes amis, ils te font du chantage si tu refuses de faire quelque chose. Et là, on dit, il faut dire stop. Et puis en rouge, ça devient dangereux. Ils te demandent ou te font du chantage pour faire quelque chose d'interdit. Ils t'humilient parce que tu n'es pas comme ils voudraient que tu sois. Ils te demandent ou te font du chantage pour envoyer des nudes. Alors les nudes, c'est quoi ? C'est des photos de nous tout nus. Voilà, ça se fait maintenant. Ils se moquent de toi en raison de ton sexe ou de ton orientation sexuelle, de ta couleur de peau, de ta religion. Ils te font des attouchements alors que tu n'es pas consentant. Et ils te font du chantage pour avoir des relations intimes. Et là, c'est écrit, hein, tes copains sont toxiques. Moi, je trouve ça sympa, toxique. Parle-en à un adulte et vite, est-il dit. Si la société qui nous entoure et qui n'est pas à proprement parler un modèle de non-violence est capable de produire un tel outil, à combien plus forte raison devrions-nous nous laisser interpeller par celui qui a lavé les pieds de ses disciples ? Parmi lesquels se trouvait Judas, celui qui nous dit « Aimez vos ennemis » et qui a joint le geste à la parole en mourant à la croix pour ceux-là même qui le crucifiaient. Mais il faut encore faire attention, parce que avec ces paroles-là, avec cette attitude du Christ aussi, on peut encore trahir l'Évangile en l'utilisant pour maintenir quelqu'un dans une situation abusive. Hein, tiens le coup. Face à ses ennemis, Jésus lui-même s'est laissé mener à l'abattoir comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Alors toi, tiens le coup, il faut tenir ferme. Qui sait si tu ne vas pas gagner ton mari à l'Évangile, même s'il te tape, même s'il te bat. Et en fait, cette attitude du Christ est tout sauf un appel à se laisser dépouiller et piétiner sans réagir par ceux que nous pourrions identifier à juste titre comme nos ennemis, parce que ce que nous dit la Bible, c'est que Jésus s'est dépouillé lui-même. Et ça fait toute la différence. Il s'est livré lui-même. Autrement dit, malgré les apparences, il n'était pas en situation de faiblesse face à des plus forts que lui. Par contre, cette attitude qui est la sienne est un appel clair, puissant, déterminé à ne pas faire partie des bourreaux, à être radicalement du côté de ceux qui souffrent et aussi de ceux qui aiment, qui bénissent, qui font du bien. C'est valable pour nos relations amicales et c'est valable aussi, bien sûr, pour la relation conjugale. D'ailleurs, ce violentomètre a d'abord été fait pour le cadre conjugal. C'est quelque chose, c'est un outil qu'on trouve très facilement sur Internet. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et c'est comme ça que l'engagement du CAP, qui est un document qui est issu du 3e congrès de Lausanne pour l'évangélisation du monde, et qui donc se veut être une déclaration commune du mouvement évangélique mondial, dit très explicitement ceci. Toute forme de maltraitance sur la personne de son partenaire dans le couple, orale, émotionnelle ou physique, on peut ajouter spirituelle sans doute, est incompatible avec l'amour du Christ, et cela, quelle que soit la culture. Nous refusons qu'une quelconque coutume culturelle ou qu'une interprétation biblique dévoyée puisse justifier de battre sa femme. Nous déplorons de rencontrer cela chez des chrétiens pratiquants, y compris des pasteurs et des responsables. Nous n'hésitons pas un instant à le dénoncer comme un péché et à appeler à se repentir d'une telle pratique et à y renoncer. On peut étendre cela, évidemment, à tous les aspects de nos relations. La Bible exhorte les parents à ne pas irriter leurs enfants, Éphésiens 6, 4. Elle exhorte ceux qui veulent être les premiers à se faire serviteurs de tous. Autrement dit, elle nous exhorte au bien commun plutôt qu'à nos intérêts particuliers. Et si on tire le fil jusqu'au bout, nous voyons bien, je crois, les réflexions éthiques auxquelles on peut aboutir concernant, par exemple, la relation entre les pays du Nord, dont nous sommes, et les pays du Sud, largement exploités, l'exploitation des ressources mondiales, la répartition des richesses, et j'en passe. Dans tous ces domaines, nous sommes appelés à nous laisser interpeller et à nous repositionner de manière juste devant le Seigneur. Et il y a une autre question au sujet de laquelle nous sommes appelés à faire la même chose, et c'est celle-ci. Qu'est-ce qui m'empêche de protéger les plus vulnérables ? Parce qu'évidemment, il y a ce que je peux faire, moi, pour essayer de ne pas être du côté des abuseurs, ce qui semble être un minimum, mais il y a aussi ce que je peux faire face aux situations d'abus. Et là, on passe un cap en matière d'engagement, je crois. Job 29 dit ceci, c'est Job qui parle, et qui dit « Oui, je sauvais le pauvre qui appelait à l'aide, et l'orphelin que personne ne secourait. La personne mourante me donnait sa bénédiction, je rendais la joie au cœur de la veuve. La justice était le vêtement dont je me revêtais. Mon droit était comme un manteau et un turban. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds de l'infirme. J'étais, moi, un père pour les malheureux et j'examinais avec attention la cause de l'inconnu. Je cassais les dents du criminel et de ses crocs, j'arrachais sa proie. » Job, qui était un homme juste, c'est comme ça que la Bible nous le présente, l'avait bien compris. La justice de Dieu ne consiste pas seulement à ne pas exploiter le pauvre, elle exige en fait de le défendre activement. Martin Luther King disait qu'à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Et ça nous met face à nos responsabilités. Et c'est assez désagréable en vrai. Parce que je ne crois pas du tout naturel, au sens où ça ferait partie de notre nature humaine, de voler au secours des plus faibles. D'abord parce que nous sommes victimes de notre ignorance. Une ignorance qui est d'ailleurs parfois fomentée par les oppresseurs eux-mêmes qui maintiennent leurs victimes dans le silence et d'autres fois qui découle tout simplement de notre déconnexion avec les pauvres, les étrangers, les veuves, les orphelins, les personnes vulnérables. Ce qui nous amène à une deuxième raison pour laquelle on a du mal, je crois, à secourir les plus faibles, et c'est le manque de proximité. Si nous voulons défendre la cause des pauvres et des malheureux, nous devons nous rapprocher suffisamment pour pouvoir les écouter, pour pouvoir les entendre. Il est évident que leur réalité n'est pas la nôtre et que si on ne s'approche pas, on ne peut pas les entendre. Et puis, il y a une troisième raison que je trouve plus inavouable, celle-ci, mais on va la regarder quand même. C'est la volonté de préserver notre tranquillité. Parce que s'impliquer auprès de ceux qui souffrent, c'est se mettre volontairement dans des problèmes. C'est s'approcher de situations compliquées qui vont venir bousculer notre quotidien. Parfois, on n'aura pas de réponse. On ne va pas se sentir bien face à notre impuissance. C'est s'exposer aussi éventuellement à entrer soi-même dans le viseur de la personne abusive. Franchement, qui a envie de ça ? Et on en revient au constat de départ. On ne se lève pas le matin avec pour projet de faire souffrir l'humanité, mais on se lève avec des désirs égoïstes qui peuvent effectivement nous freiner au moment de devoir aider une personne victime. Ignorance, distance, aisance sont à l'origine de nos résistances. Face à la réalité des abus, soyons conscients de ces obstacles et du coup, renseignons-nous, rapprochons-nous et repentons-nous. Nous voulons être ici, dans cette église, un lieu où les victimes sont entendues et accompagnées. Nous voulons être un lieu où les abus ne sont ni couverts ni tolérés. Et j'espère qu'on saura ne pas en rester aux mots, mais que s'il faut agir, nous saurons le faire également. Et au-delà de notre seule église, parce que le Conseil national des évangéliques de France a bien pris la mesure du besoin qui est réel parmi nous, dans nos églises, il a mis en place le service d'écoute Stop Abus. Alors, ça peut être un premier pas, si vous êtes victime ou si vous êtes témoin d'un abus, cette plateforme, elle est là pour recueillir votre parole et vous accompagner. Parce que ce n'est pas toujours facile de s'adresser au pasteur ou de s'adresser à quelqu'un de l'église. Là, il y a une plateforme qui vous permet de parler et de dire ce que vous voyez ou ce que vous vivez. Elle est joignable par courrier à l'adresse qui est ici. Elle est joignable également par mail. Vous retrouvez toutes ces infos facilement sur Internet en mettant Stop Abus CNEF sur un moteur de recherche. Il y a un site qui est dédié, c'est facile à trouver. En tout cas, ne restez pas seul avec un fardeau qui est évidemment trop lourd à porter. Et je vais prier. Seigneur, nous voyons comment le monde peut fonctionner autour de nous. Nous voyons aussi de belles choses qui sont mises en place dans ce monde. On l'a vu avec, par exemple, cet outil, le violentomètre, qui essaye de permettre à chacun de se rendre compte s'il se trouve dans une situation d'abus ou de permettre de se rendre compte s'il est lui-même un abuseur. Seigneur, nous savons aussi que tu nous appelles à plus. Et nous nous illusionnons parfois nous-mêmes en pensant que parmi nous, c'est évidemment bien mieux. Que parmi nous, ces choses-là ne peuvent pas arriver. Seigneur, c'est mal connaître notre cœur pécheur. Et nous voulons, si nous devons faire un pas de plus par rapport au monde qui nous entoure, c'est celui-là, c'est de nous reconnaître pécheurs. De reconnaître que nous pouvons, nous aussi, dans l'Église, être abusés et être abuseurs. Seigneur, évidemment, on ne veut pas simplement se contenter de le reconnaître, on veut aussi pouvoir agir conformément à ta parole, agir conformément à ta justice qui nous demande de prendre soin des plus faibles. Nous voulons être courageux dans cet exercice. Nous te demandons de renforcer notre courage, à la fois pour dénoncer l'abus si nous sommes victimes, à la fois pour accompagner les victimes si nous sommes en situation d'écoute. Nous savons que nous avons besoin de courage pour une chose comme pour l'autre. Nous voulons être un lieu où l'abus, quel qu'il soit, n'a pas sa place. Seigneur, je ne sais pas exactement quel couvercle nous ouvrons aujourd'hui avec cette parole-là. Seigneur, nous voulons simplement te dire que nous sommes prêts à ouvrir ce couvercle et à en accueillir toutes les conséquences jusqu'à ses dernières limites. C'est un engagement formel que nous prenons, Seigneur, par cette prise de parole publique ce matin. Et nous te prions pour que celles et ceux qui souffrent parmi nous d'abus puissent trouver ici un lieu d'accompagnement et de restauration. Je te prie de bénir chacun, en particulier celles et ceux qui aujourd'hui se sont sentis particulièrement interpellés d'une façon ou d'une autre, ou bien parce qu'ils se reconnaissent dans la personne abusée, ou bien parce que ils ont pris conscience qu'ils font partie des abuseurs. Seigneur, nous voulons accompagner les uns comme les autres, parce que tu nous appelles à la liberté, et nous savons que les uns comme les autres sont prisonniers. Seigneur, je te prie de bénir notre assemblée et de restaurer les cœurs brisés. Au nom de Jésus. Amen.